Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Il est 9h40 sur France Inter, soyez les bienvenus dans l'Instant
c'est
M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Tichou, Sylvie, Laetitia, Nadia échappent au déterminisme. Enfants des grands ensembles de la banlieue parisienne, leurs parcours disent formidablement bien les dangers de la ghettoïsation, la non-mixité sociale et culturelle, l'enclave qui les sépare de la capitale. Elles se sont bagarrées pour fuir la violence, la pauvreté, la laideur. Elles sont pourtant restées très attachées à ces quartiers où elles ont appris mille choses de la vie. Un pied dehors, le cœur dedans, ça permet de raconter une histoire plus fine et plus nuancée que ce que la télé dit d'habitude des cités.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Et bonjour Olivier Delacroix.
Et bonjour Sonia.
Les dreadlocks qui s'en mêlent avec le casque de la radio. Ça va bien, lendemain de match.
Lendemain de match, ouais.
Vous êtes dingue de foot, je le découvre.
Ouais. J'aime beaucoup.
Toutes les semaines sur CNews maintenant.
Ouais, avec Pascal Praud.
Voilà, l'homme qui recueille les confidences de tous les Français vient parler ballon.
Mais ouais, ça me fait du bien.
Juste pour le plaisir.
Juste pour le plaisir et ça me permet d'être dans un autre exercice. Et ça me fait du bien, vraiment.
Bon. Alors, on en parlera une prochaine fois. Des malheurs du PSG, parce que devait y avoir une sacrée ambiance hier soir au Parc des Princes. Je vous reçois ce matin pour parler du parcours des combattantes qui est diffusé ce soir sur France 5 à 20h50. Ce n'est pas Dans les yeux d'Olivier, votre saga documentaire de France 2, qui va recommencer d'ailleurs. C'est un des poids lourds de France 2. Ça reviendra le 21 mars prochain. Ce parcours des combattantes, il est assez différent dans sa forme et dans sa réalisation. On va en parler dans un instant, mais juste un mot. Il est presque plus léché, il est plus fluide, il est différent à l'image. Et pourtant, je sais que dans les yeux d'Olivier, vous êtes attaché, vous, à quelque chose qui est un peu plus brut de décoffrage, peut-être un peu plus...
Bah, il y avait d'abord une volonté, vu que j'arrive sur France 5, il y avait une volonté
d'avoir
Nathalie Darré-Grand.
Oui,
de vraiment se démarquer de Dans les yeux d'Olivier, qui est vraiment... Ouais. Quelque chose, ne serait-ce que par rapport à ce à quoi vous faisiez allusion, mes dreadlocks. Je suis très présent dans les yeux d'Olivier. Là, d'abord, c'était un programme sur les femmes. Et pour moi, qui dit femme, dit subtilité, dit légèreté, dit... et moins de présence et plus de subtilité dans la réalisation aussi. Donc, on voulait, avec Katia Maxime, faire un film qui allait ressembler un peu à l'image qu'on se fait de ces femmes. Voilà, dans une sorte de grâce qu'on peut retrouver à l'image, comme quand elle parle. Donc, je crois qu'on a plutôt pas mal réussi notre coup. Nathalie Darré-Grand...
C'est ayant, la patronne de France 5.
La patronne de France 5, ayant vraiment... insister sur le fait de se démarquer.
On va en parler dans un instant. Alors, on est mardi, c'est le jour des séries. Salut à toi, Romain Nigita, qui exceptionnellement vient un mercredi.
Tout à fait, bonjour Sonia.
Alors, on dit un petit mot d'actu des médias, et puis ensuite, les séries, vous allez voir Olivier Delacroix, c'est un maboule de séries autant que de foot. Les chaînes du groupe TF1 ne sont toujours pas accessibles aux abonnés de Canal+, ce dernier refusant de payer pour diffuser, comme l'exige TF1, des chaînes gratuites, par ailleurs. Le CSA tente aujourd'hui de mettre les deux parties autour d'une table de négociation, sachant que l'institution ne peut pas grand-chose dans un désaccord commercial de droit privé. Gilles Pélisson, PDG TF1, s'exprime ce matin dans les pages du Parisien aujourd'hui en France. Les 10 ans de Mediapart, avec ses 140 000 abonnés et des bénéfices depuis 3 années consécutives, le site d'info qui propose déjà de nombreux lives vidéo, des débats, des interviews, développe le projet d'une chaîne de télé, figurez-vous, diffusée à l'avenir sur les box et sur Internet. Mediapart je me suis emmêlé les pinceaux. Par ailleurs, le média se donne une charte de déontologie qui interdit notamment les voyages de presse ou l'animation de conférences rémunérées. Les collaborateurs de Mediapart doivent remplir une déclaration d'intérêt indiquant leurs participations éventuelles, mais aussi la profession de leur conjoint. Et puis la grille des salaires de la rédaction va être publiée, rendue transparente. Alors Romain, désolé pour ce petit pataquès, moi c'est pas le lendemain de match, j'ai regardé que la première mi-temps. Romain Nigita, deux séries diffusées demain à la télévision, une mini-saga dramatique anglaise sur Arte, sous influence, et une série de super-héros Marvel sur Netflix, Jessica Jones, saison 2. On se demande bien ce qu'elles peuvent avoir en commun.
Eh bien les deux traitent du même thème, des femmes indépendantes tombées sous la coupe d'un homme manipulateur. Et dans ces deux séries, il est question de viol, et de la manière dont ces deux femmes vont devoir ensuite affronter le regard des autres. Mm-hmm. Dans la série britannique Sous influence, on retrouve la formidable actrice Emily Watson.
Ah, Breaking the Wave.
Exactement, voilà. Le film de Lars von Trier dans lequel on l'a découvert. Elle joue ici une femme mariée qui est victime d'une agression sexuelle. Le coupable est un collègue de travail. Seulement voilà, elle a aussi un amant. Elle a peur d'être jugée, de voir sa vie intime étalée au grand jour. Et la plus forte, elle refuse de porter plainte.
Ils passeront tout au peigne fin. Votre activité sur Internet, votre famille, vos connaissances, vos collègues. Le moindre élément relatif à votre sexualité qui suggérerait un penchant pour une certaine brutalité. Des photos ou des vidéos érotiques.
Or, son amant cache lui aussi de nombreux secrets et c'est là que la situation dégénère. Cette mini-série est proprement glaçante.
Alors, comment la question du viol est-elle traitée chez les super-héros, franchement?
De manière très intelligente. Dans la saison 1 de Jessica Jones, un super-méchant a le super-pouvoir de manipuler les gens et il force ainsi la super-héroïne Jessica Jones à être sa compagne malgré elle, avec tout ce que ça suppose. On découvrait ensuite Jessica après les faits, en véritable état de stress post-traumatique. Elle avait abandonné son rôle d'héroïne costumée pour devenir une détective privée, alcoolique et cynique.
Et les nouveaux épisodes continuent de s'attaquer à ce qu'on appelle la culture du viol.
Tout à fait, ils s'attaquent.
Ça m'étonne parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce type de registre dans les séries de super-héros.
Bah, c'est la diversité des comics américains qu'on ne perçoit pas forcément quand on voit uniquement les blockbusters. Ouais. Et dans cette saison 2, Jessica Jones s'attaque à cet état d'esprit qui contamine tous les comportements abusifs. Écoutez comment Jessica refuse l'offre d'un concurrent qui veut racheter son agence de détective privée.
Non.
Look, you might want to hear the offer before you piss on it.
You don't want me, you just want to eliminate the competition.
I never take no for an answer.
How rapey of you.
Quand le concurrent explique cyniquement qu'il n'accepte pas qu'on lui dise non, Jessica lui rétorque que c'est une réponse digne d'un violeur.
Voilà, et c'est une série télé créée par des femmes et tous les épisodes de Jessica Jones sont réalisés par des femmes. C'est une première aux États-Unis, Romain.
Et tout à fait, c'est une première et elles en profitent d'ailleurs pour égratigner l'industrie hollywoodienne. Dans cette saison 2, on va découvrir le passé d'une ancienne starlette et la façon dont un réalisateur de cinéma a abusé d'elle quand elle avait 16 ans. Une situation que la propre mère de cette victime juge comme étant le prix à payer pour accéder à la célébrité. Avec deux styles très différents, mais avec autant de talent, Sous influence et Jessica Jones s'interrogent toutes les deux la manière dont le tribunal populaire perçoit la notion de consentement. Une question terriblement d'actualité des deux côtés de la caméra.
Voilà, Sous influence sur Arte, demain, et Jessica Jones pour les abonnés à Netflix. Olivier Delacroix, un petit mot. Non mais c'est vrai, vous en consommez énormément de la série. Et de tout ?
Oui, de tout, ouais. Je regarde souvent deux séries en parallèle.
Deux séries en parallèle.
Je viens de finir Narcos et Rectify, une série qui passait sur Arte, me semble-t-il. Il y a tellement une diversité.
Ça vous tente, la fiction ?
Oui,
vous
oui.
Vous qui passez votre temps à brasser le réel, à creuser le réel, à fouiller le réel, ça vous tente, la fiction ?
Ah bah, ça ne fait pas que me tenter. Je suis en train de travailler avec UGC, en tout cas avec Olivier Kahn, qui m'a demandé de terminer un pitch. Il a lu un premier scénario, qui était un scénario très noir, Eldorado. Il m'a demandé d'écrire une comédie, donc... on vient de terminer. Une comédie. Voilà, j'ai fait cette tête-là en fait lorsqu'il m'a dit il faudrait que tu écrives une comédie. UGC, les premiers films, on ne fait que des comédies. Je me suis dit film comique, moi tout de suite, ça a été le réflexe. Et en fait non, il m'a expliqué que ce que je faisais dans Les Yeux d'Olivier était comédie humaine et qu'il fallait que j'essaie de me référer à ce que je vivais dans le cadre de mon travail qu'il appréciait.
C'est vrai que dans les personnages que on appelle ça un personnage en documentaire, donc on utilise un terme de fiction, les personnages que vous rencontrez dans la vie réelle et avec lesquels vous tournez, il y a des personnages dignes de fiction parce que souvent la réalité dépasse
complètement. Complètement, et c'est en plus je pense que c'est ce qui fera la force de ce que j'écris en ce moment, c'est de rejoindre la réalité. Je suis souvent très attaché quand je regarde des séries ou des films, vraiment à la véracité. J'ai vraiment envie d'y croire. S'il y a un truc qui me fait penser, mais non, ça marche pas, je décroche.
Alors on va parler de Tichou, Sylvie, Laetitia, Nadia. Elles sont bien réelles. Ce sont les parcours des combattantes que vous racontez ce soir sur France 5.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Quand tu viens du 9-3, quand t'es femme, quand t'es noire, eh ben excuse-moi, tu pourrais presque te garer sur une place handicapée, tu vois, presque.
J'adore cet extrait, je le trouve absolument génial. Mais c'est ça qui est absolument formidable avec ces quatre femmes, c'est que bon, vous passez du temps avec elles, ça on a l'habitude, on connaît votre travail, etc. Donc ça permet de dire des choses plus fines, plus nuancées, plus complexes, plus contradictoires que ce à quoi on s'attend. Mais ce sont quand même des femmes qui ont une parole précise, vive, intelligente. On sent que la vie, elles l'ont pris à bras-le-corps, qu'elles l'ont digéré, qu'elles y ont réfléchi en réalité. Et vous continuez de les faire réfléchir face à la caméra.
Oui, et je crois que voilà, il y a plein de perles comme celle-là. Mais je crois que ce qui différencie ces quatre femmes de pas mal de femmes qui nous écoutent ce matin, c'est que en banlieue, lorsque vous naissez en banlieue, vous avez besoin de vous battre 100 fois plus que les autres. Donc il y a cette parole de femme qui est déjà précieuse, mais voilà, ces femmes de
enfin quand
de
même quartier. La question de la féminité, de la sexualité, elle est omniprésente dans ce qu'elle raconte. Hein. La sexualité, la réputation,
le respect.
Pression, la pression sociale, c'est quelque chose qui revient tout le temps et à tous les âges de la vie.
Ouais. Il y a dans ces quartiers des règles très très tôt et dès tout petites, elles apprennent à respecter ces règles et c'est le quartier qui impose ses règles, donc je trouve que Tichou l'explique très bien puisqu'elle elle parle de se bonhomiser à un moment, se bonhomiser vite, ça veut dire devenir un petit mec.
Un petit mec, ça veut pas dire devenir plus gentil,
non,
plus rond,
non,
etc.
Non,
ça veut dire un petit mec dans sa bouche. Justement, ce quartier, je l'ai dit, c'est super intéressant, elles sont à la fois dedans et dehors, il est tout près de là, de la maison de la radio, de Paris, de là où on vous parle, et en même temps il est très loin.
T'imagines que pour sortir d'ici, pour aller à Paris, tu payes un billet combien ?
5,60€
un ticket.
5,60€,
d'accord. Quand t'es dans, tu vois, donc déjà, on te dit que t'es pas parisien. On parle d'Aulnay, les 3000, c'est un quartier chaud. Non, c'est un quartier de gens aussi en colère parce qu'ils ont été leurrés, ils ont été lésés, ils ont été mis sur le côté.
Les unes en sont parties, Olivier Delacroix, par simple ascension sociale.
Oui.
Elles s'en sont extraites, elles se sont enrichies, elles habitent aujourd'hui de beaux quartiers parisiens. Les autres ont été chassées du quartier, on y reviendra. Une troisième choisit de s'installer tout simplement à 10 minutes de là. Mais 10 minutes, ça change tout quand on veut élever ses enfants.
Exactement.
Et c'est extrêmement intéressant ce rapport dedans-dehors.
Ça prend encore plus de sens et de dimension lorsque j'ai interviewé ces quatre jeunes femmes de 18 ans qui sont dans Zonzon 93 avec Laetitia. Parce que
c'est une association d'aide aux familles,
voilà,
dont
d'aide aux familles
l'un des
détenus.
Membres, voilà.
Et Laetitia en est la responsable. Et lorsque ces quatre petites m'ont dit que dès la troisième, on les avait toutes orientées vers du professionnel, qu'on à aucun moment on ne leur a donné leur chance pour il y en a une qui pouvait passer en littéraire, une autre en S, et non, tu vas aller faire du
ça
du...
c'est pas pour toi, la phrase qui revient tout le temps, c'est pas pour toi.
Vous savez, en tant que père, j'ai trouvé ça dramatique et j'ai compris combien ces jeunes se sentaient mais très tôt exclus et vraiment mis de côté. Et je trouve que voilà.
Et en même temps, pour utiliser une expression dont j'abuse totalement, et en même temps, donc, elles sont nombreuses à vous dire ce que la vie leur a appris dans
bien
ces
sûr,
quartiers.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'elles ont toutes, en même temps, une forme d'attachement viscéral, un lien très fort. Elles reconnaissent ce qui les a forgées dans cet environnement.
Il y a, vous savez, chez toutes ces femmes, que ce soit Sylvie, qui habite les beaux quartiers, comme Tichou, comme Laetitia.
Écrivaine, réalisatrice
exactement,
de cinéma.
Mais toutes, trimballe le quartier. On sent que dans leur ventre, il y a une place privilégiée. Il y a un rappel, toujours. Ce sont des femmes qui savent d'où elles viennent et qui agissent minute par minute en femmes de quartier. Je pense que ces règles, on ne les oublie jamais. Comme nous, finalement. Sauf que elles ont été confrontées à autre chose.
Alors, elles ont grandi dans la pauvreté et ça, les pauvres avec les pauvres, c'est quelque chose qui revient, notamment chez les plus jeunes de vos quatre témoins.
La pauvreté, c'est aussi quelque chose qui est très difficile à vivre. Et dans le 93, ce ne sont pas que les Noirs et les Arabes qui sont pauvres. On peut être aussi blanche et être pauvre et vivre des moments très très difficiles. Quand on va voir l'assistante sociale, quand on va démarcher les Restos du Cœur ou le Secours Populaire, bah on est entre nous. Et là, on est entre nous, mais pas entre nous Noirs et Arabes, on est entre nous pauvres, donc Noirs, Arabes, Blancs.
En fait, on n'en parle pas tant que ça. Finalement,
non.
Quand on parle de la banlieue, on parle beaucoup de ses dérives, des dangers de la radicalisation, de l'échec scolaire, on parle d'énormément de choses, on parle pas tant que ça de la pauvreté.
Tel quel.
Mais parce que on, je pense qu'on aime bien cacher ce qui fait pas beau. Hein. J'ai franchement.
Ou agiter
oui,
des marionnettes.
Oui, complètement. Mais je vais vous faire une confidence. Hein. J'ai vraiment, durant le tournage de ce film, réalisé combien j'étais. Bercé par l'info qu'on nous livre en permanence justement sur cette banlieue qui finalement dont on parle lorsqu'elle s'agite cette banlieue lorsqu'elle crame mais on a du mal à souligner et ressouligner combien les gens là-bas sont pauvres et souvent se débrouillent seuls.
Et ça, c'est très intéressant parce que les deux plus âgées de vos quatre témoins, Sylvie et Nadia, elles ont grandi dans une forme de reconnaissance des institutions, dans une forme de reconnaissance de la France. La Courneuve, c'est une aubaine pour les Juifs arrivés de Tunisie. C'est un havre de promesses, d'éducation, de liberté pour Nadia, qui est fille d'Algérien d'une sévérité absolument effroyable. Sylvie le dit, elle a reçu une éducation quasi bourgeoise, la danse, l'équitation, les colonies de vacances, partout avec la mairie. Et en même temps, les deux plus jeunes, Tichou et Laetitia, c'est flagrant. Les adultes, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là quand elles avaient besoin d'eux. Elles se sont senties extrêmement seules. Et d'ailleurs, quand Laetitia a finalement... Qu'est-ce qui va la sauver? C'est qu'un juge, un homme blanc, elle
un
le
blanc,
dit. C'est la première fois qu'un homme, un adulte blanc m'a écouté. Elle était prête pour la tôle. Elle basculait totalement dans la violence.
Il y avait une violence chez Laetitia qui ne demandait qu'à exploser. Et finalement, je trouve que voilà, ce moment-là, il est très beau aussi. On réalise combien ces jeunes, souvent qu'on regarde avec méfiance, parce que encore une fois, on a été bercé de clichés complètement nazes pour moi. Et quand on écoute ces femmes et Laetitia qui dit on m'a fait confiance. C'est la première fois qu'un adulte déjà me faisait confiance, parce que l'adulte, à 15-16 ans, c'est l'ennemi, l'empêcheur de tourner en rond, mais c'est souvent l'ennemi.
Mais on sent bien qu'il y a une différence entre ces deux générations
carrément,
de femmes. Ça c'est extrêmement intéressant. On n'a pas le temps d'écouter le dernier extrait que j'avais choisi, qui est vraiment très bien, parce que ça aussi, c'est un des fils rouges pendant cette heure et demie de votre film, Olivier Delacroix. Quelque chose a changé dans les quartiers. Elles le disent toutes, chacune à leur manière.
Ouais.
Aujourd'hui, on se ressemble tous.
Ouais.
Avant, même les colonies de vacances, elles étaient mixtes. Elles ne le sont plus. La même religion, le même milieu social, la même éducation. Et finalement, de ça, on est en train de mourir. Donc finalement, la question de l'islam et du rapport à la religion musulmane, elle est tout le temps présente dans votre film.
Ouais. Mmh.
Avec mille choses extrêmement contradictoires et différentes.
Ouais.
Ça fait du bien.
Ouais. Bah, ça fait du bien parce que je crois qu'on en parle de manière très cash.
Oui, très cash.
Et en fait, l'une comme l'autre, Nadia, comme Tichou, nous livrent leur vision très différente de l'islam. Et ça fait du bien parce que finalement, on s'aperçoit que l'islam est la religion des quartiers et des banlieues, mais que ça peut être un voyage spirituel formidable qui fait beaucoup de bien à beaucoup de femmes qui se voilent dans cette continuité de se réaliser spirituellement. Et puis, on a Nadia aussi qui, n'oublions pas,
parle
de ceux qui essaient de mettre la main
en permanence sur ces quartiers. Comme un instrument de répression
et qui lave la tête de nos mômes.
Les femmes. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à vous.
Vous reviendrez. On parlera foot, on parlera série.
Je viens toujours avec un grand plaisir, vous le savez.
Parcours de combattante, c'est ce soir.
Merci,
sur France 5 à 20h50. Bonjour, Ali Rebeilly.
Salut, juste un mot, Olivier Delcroix, quand j'étais stagiaire au vrai journal des présidentielles en 2002. Garçon formidable qui s'occupait de moi. J'étais tout petit stagiaire, empathique, super sympa. Donc voilà.
Merci.
Et en plus, un sujet dans la continuité d'un Grand Bien Vous Fasse, parce que vous parlez des mères.
Exactement. On se demande comment font certaines mères à travers le monde pendant leur grossesse, au moment de l'accouchement. Comment prodiguent-elles leurs soins? Comment élèvent-elles leurs enfants? On fait un petit tour du monde des pratiques. 01 45 24 7000.